croire à Jésus. Voilà une question. Est-ce que vous aimez les serpents? Qui c'est qui aime les serpents ici? J'ai un souvenir de serpent mémorable. J'avais, je ne sais plus, 15 ou 16 ans, et je me promenais dans la campagne, là-bas dans le sud, de pente raide, et tout d'un coup j'entends, mais je ne le voyais pas. Je l'entendais, mais je ne le voyais pas. Et tout d'un coup, je l'ai vu. Il était là, à 2 mètres de moi, vous voyez, avec sa langue fourchue. Oh, pauvre. J'ai eu une frayeur terrible. J'ai couru jusqu'à mon vélo, j'ai monté dessus, j'ai fait 18 kilomètres jusque chez ma tante. C'est pas très agréable, serpent. Mais je vais vous raconter cet après-midi une histoire de serpent. On va lire dans la Bible, dans le livre des Nombres, au chapitre 21 et au verset 4. Une histoire à la fois tragique et en même temps glorieuse. Il est écrit ceci, je pense que le texte s'affiche, oui, merci. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. » Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conserver la vie. Amen. Puis on va lire dans l'évangile de Jean, c'est dans le Nouveau Testament bien entendu, au chapitre 3 et au verset 14. Et c'est Jésus qui parle là, au cours de cet entretien qu'il eut avec Nicodème, un homme profondément religieux, et il lui dit ceci. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il est question là, dans ce premier texte que nous avons lu, du peuple d'Israël, qui, vous le savez certainement, était sorti d'Égypte 40 ans avant, sous la conduite de Moïse, et qui cheminait, ma foi, péniblement, vers le pays promis, ce pays de Canaan, qu'il devait recevoir en héritage. Et 40 ans, c'est long, hein ? Alors, le texte nous dit que le peuple s'impatienta. Vous savez, quand on perd patience, des fois, on dit n'importe quoi, c'est pas vrai? N'importe quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Ils s'en sont pris à Moïse, ce qui déjà en soi était une faute, mais encore plus grave. Ils s'en sont pris à Dieu. Ils se sont révoltés contre Dieu. Et nous assistons là à la révolte du peuple d'Israël qui dit, mais enfin, pourquoi on est parti d'Égypte? Ils avaient oublié qu'en Égypte, ils avaient passé 4 siècles et quelques sous un esclavage terrible, mais ils avaient oublié ça. La révolte contre Dieu, le rejet de son autorité, le refus d'obéir à ses commandements, voyez. Ça, ce n'est pas seulement la caractéristique du peuple d'Israël dans l'histoire que nous considérons, mais c'est la caractéristique de l'humanité tout entière et de chacun d'entre nous, ne vous en déplaise, en particulier. Vous savez comment Dieu nous appelle ? La Bible nous appelle des fils, et des filles pour les dames, des fils de la rébellion. Des fils de la rébellion. C'est le résultat, vous voyez, cette rébellion qui est en nous, les êtres humains, rébellion contre l'autorité divine, c'est le résultat de l'influence néfaste du diable qui pousse les hommes à se révolter contre Dieu. Lui-même, le diable, Satan, étant en révolte contre Dieu, eh bien, il nous transmet ce venin, ce virus, cette influence de la révolte. Et le péché, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, c'est ça. Le péché, ce n'est pas un terme, ce n'est pas un mot que les théologiens ont inventé. Le péché, c'est en fait, on peut le définir ainsi, un acte de rébellion, de contestation de l'autorité divine. L'autorité divine qui, par le péché, est défiée, méprisée par notre désobéissance. Voilà, ça c'est le propre de l'être humain. Et nous sommes tous coupables de cette attitude. Et même les plus gentils, il y a des gens qui sont gentils comme tout là. Hein. Et même les plus gentils, même les meilleurs, excusez-moi, ils ne valent pas grand-chose. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. C'est là le verdict que Dieu fait à notre égard dans sa parole. Je sais bien que les philosophies humaines nous racontent que l'être humain, c'est quelqu'un de formidable. Mais ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas du tout, en tout cas, le diagnostic que Dieu porte à l'égard de l'humanité. Pas un juste, pas même un seul. Cependant, s'il est vrai qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, ces pécheurs que nous sommes, il les aime, alléluia, et il veut les sauver. Alors la conséquence de cette rébellion, de cette désobéissance, de cette révolte vis-à-vis de l'autorité divine, de cette contestation, eh bien c'est que, voilà, des serpents ont arrivé là et ont commencé à mordre le peuple. Le texte dit que beaucoup de gens moururent en Israël. Vous imaginez, hein, la surface du désert, là, parmi la rocaille, le sable, ça grouillait de toutes parts. Ça grouillait de serpents, et les uns après les autres, les malheureux, ils étaient mordus, et après quelques soubresauts, ils tombaient près de mort. C'est affreux. Eh oui, mais c'est toujours pareil. Parce que l'Écriture dit que le salaire du péché, c'est la mort. Dans la Bible, nous apprenons que celui qui a la puissance de la mort, eh bien, c'est le diable. C'est écrit dans l'Épître aux Hébreux, n'est-ce pas ? Et il est représenté symboliquement, souvent dans la Bible, par le serpent. D'ailleurs, souvenez-vous, dans le Jardin d'Éden, vous vous rappelez ? Quand Ève, notre mère à tous, a été séduite, trompée par le diable, le diable avait pris la forme, l'aspect d'un serpent pour lui dire oh, « Mais si tu manges du fruit défendu, oh, tu seras comme un dieu. Hein. » Dire à une femme « Tu seras comme une déesse », alors là, ça perd la tête. Hein. C'est ce qui est arrivé. Voilà. Et elle s'est laissée séduire par le tentateur, n'est-ce pas ? Et étant lui-même, je le répète, en rébellion contre Dieu, il nous a, en quelque sorte, je le redis, inoculé son venin de péché qui est porteur de mort. Comme autrefois dans le désert, le venin du serpent, eh bien, communiquait la mort à ceux qui avaient été mordus de la même manière. Le venin du péché que le diable nous a inoculé est porteur de mort. Vous l'avez souligné en rappelant ce verset. Le salaire du péché, c'est la mort. Et dans ce texte, le peuple a pris conscience de sa faute. Vous voyez ? Il s'en humilie. Il reconnaît le bien fondé la légitimité du châtiment divin qui le frappe. Ils viennent vers Moïse en disant « nous avons péché parce que nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ce serpent. Nous avons péché. » Cette confession porte un nom, la repentance. La repentance, dans la Bible, c'est un mot très précis. Le mot qui est traduit par repentance dans le Nouveau Testament, c'est le terme grec « métanoïa ». Et ça veut dire littéralement « changement de mentalité », « changement d'état d'esprit, de manière de se comporter, de voir les choses et de les faire aussi. » Vous savez, on peut changer beaucoup de choses. On peut changer de look, on peut changer de coiffure, on peut changer, même aujourd'hui, on peut changer de faciès avec la chirurgie esthétique. Mais la repentance, ça va au-delà des apparences extérieures, c'est un changement intérieur, changement d'état d'esprit, changement de mentalité, voilà. L'humilité, la soumission, le sentiment de culpabilité et le désir d'obéir désormais à Dieu viennent remplacer la révolte. Ça, c'est la repentance. Quand un homme, une femme cesse de contester, de tendre le poing contre Dieu ou de vivre sans foi ni loi, sans tenir compte des commandements de Dieu, qu'il s'engage dans une voie d'obéissance, il se repent, ça plaît à Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. L'Écriture dit que sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Voilà, toutes les générations sont concernées. Dieu annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Si vous ne l'avez pas fait, n'attendez pas 10 ans de plus, ni 6 mois de plus, ni une semaine de plus, ni un jour de plus. Puisque l'Écriture dit, je cite ce verset à nouveau, Dieu annonce quand ? Maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Et la repentance authentique a toujours un effet bénéfique. Alléluia. C'est toujours suivi d'effet, vous voyez ? Elle nous permet d'accéder, la repentance, à la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu se plaît à pardonner le pécheur qui se repent. Gloire à Dieu. Dieu, nous dit la Bible, prend plaisir à la miséricorde. Il prend plaisir, il aime ça. Hein? Chacun son plaisir. Le plaisir de Dieu, la joie de Dieu, la satisfaction... Il la trouve dans le fait de pouvoir pardonner les pécheurs. C'est pour ça que la Bible dit que quand un pécheur se repent, il y a quoi ? De la joie dans le ciel. Parce que Dieu ne pardonne pas à contre-cœur, mais il le fait au contraire de tout son cœur. Il le fait avec plaisir. Dans le livre du prophète Ésaïe, eh bien, il y a une parole à ce sujet qui m'apparaît importante, qui est importante, Ésaïe 55, verset 6, où le prophète nous dit ceci, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » Cherchez Dieu, cherchez Dieu. Invoquez-le, c'est-à-dire priez-le, tandis qu'il est prêt. Dieu n'est pas loin, mes amis, il est prêt. On l'a chanté tout à l'heure, Dieu est là. Que le méchant abandonne sa voie, sa mauvaise manière de vivre. Et c'est ça le repentance, ce n'est pas seulement des mots, c'est un comportement nouveau que nous adoptons. Nous cessons d'être rebelles, désobéissants, pour marcher dans une voie d'obéissance. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, que c'est beau ça, qui ne se lasse pas de pardonner. C'est pas formidable ? Il ne se lasse pas de pardonner. Se lasse pas. Si quelqu'un se repent cet après-midi, tu ne vas pas dire encore un ! Bon, pas possible. Oh là là, non. Il prend plaisir à la miséricorde. Il ne se lasse pas de pardonner. Aussi souvent, aussi longtemps, eh bien, que c'est nécessaire, il fait grâce, il fait miséricorde. Il prend plaisir à la miséricorde. Alors, dans le texte qui nous occupe, le moyen de salut, il fallait le trouver. Hein. Il n'y a que Dieu pour trouver ça. Le serpent d'airain fixé sur une perche. Alors, les vaccins... Hein, n'existait pas à l'époque. Hein, Il y a des gens aujourd'hui, quand ils vont faire une balade en montagne, ils prennent, un, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, et puis si tu es mordu par une vipère, marqué paraît que la piqûre risque d'être pire que le mal. Hein, mais enfin bon, ça c'est autre chose. Mais Dieu a prévu un moyen, un serpent. Il a dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, là. Voilà, tu prends un morceau de métal, tu représentes la forme d'un serpent, tu cloues ça sur un bout de bois, sur une perche, et tu dresses la perche. Et tous ceux qui, après avoir été mordus, regarderont au serpent d'airain cloué sur sa perche, seront guéris. Les effets du venin seront neutralisés. Jésus a fait référence à cet événement, à ce serpent d'airain fixé, cloué sur une perche, pour communiquer la guérison à ceux qui avaient été mordus par les serpents. Il y aura de la même manière que Moïse éleva le serpent dans le désert. Il faut que le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, soit élevé. Il parlait de l'élévation qu'il allait connaître sur la croix du calvaire, mes amis. Car de la même manière que le serpent d'airain fut cloué sur une perche dressée dans le désert par Moïse, Jésus, le Fils de Dieu, a été cloué sur une croix qui a été dressée sur la colline du Golgotha. Et en effet, voyez, ce serpent d'airain fixé sur cette perche représente symboliquement Jésus qui fut lui aussi, je le répète, cloué sur une croix. Jésus sur la croix, est-il besoin de le rappeler? Oui, une fois de plus, nous voulons le redire. Nous l'avons chanté tout à l'heure. A subi à notre place le châtiment imposé par Dieu à l'égard du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Là, sur la croix, le Fils de Dieu revêtu de nos péchés, dont il s'est volontairement chargé. La justice divine lui est appliquée. Il est frappé, il souffre, il meurt. Il reçoit en sa personne la condamnation que nous méritions et que nous aurions dû subir justement du fait de nos péchés. Et c'est lui, cette condamnation qu'il a subie pour nous. Tout cela pour que nous puissions être sauvés. Tout cela parce qu'il nous a aimés. Je chantais tout à l'heure ce cantique qui disait « Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. » Jamais on ne saura exactement ce qui s'est passé sur la croix. Bien sûr, nous sommes impressionnés quand on parle de la croix, la souffrance, les chairs déchirées, le sang qui coule. Mais mes amis, il faut voir plus loin que cet aspect physique. Ce n'est pas là le plus important. Les souffrances de Jésus sur la croix ne furent pas essentiellement des souffrances physiques, mais certes elles étaient là, mais surtout des souffrances spirituelles, parce que lui, le Fils de Dieu, saint, innocent, pur, sans tache, vivant de toute éternité en communion parfaite et étroite avec le Père, s'est chargé de nos péchés, du fait de nos péchés. Il était l'objet de la colère de Dieu, séparé de Dieu. Mon Dieu, s'écriera-t-il, pourquoi m'as-tu abandonné? Voyez. Et c'est cette souffrance spirituelle qui était la plus lourde à porter pour le Seigneur Jésus. Il a consenti à cela, afin que par lui, nous puissions être sauvés. Amen. Nous puissions être sauvés. Il a pris à sa charge notre condamnation, notre péché, notre malédiction, voilà, notre jugement. La mort, c'est ce qui va avec. La souffrance spirituelle, le rejet, loin de Dieu. Voyez? Parce que c'est ça l'enfer. Qu'est-ce que c'est l'enfer? Donc ils pensent que dans l'enfer, on sera dans une grande marmite, que les petits démons, ils agiteront, ils remueront la sauce là. Mais c'est la blague, ça. L'enfer, c'est être séparé de Dieu. Et quelque part, partiellement, tout au moins momentanément, Jésus a connu, on peut le dire, l'enfer. Dans le fait qu'il a été séparé de Dieu pour que nous, nous bénéficions en retour, si nous mettons notre foi en lui, de la présence de Dieu. Pour ce temps-là sur la terre et encore plus de l'éternité. Parce que le ciel, si l'enfer c'est être séparé de Dieu, le ciel c'est quoi? C'est être avec Dieu. On l'a dit ce matin pour ceux qui étaient là, ses serviteurs le serviront et ils verront sa face. Amen. C'est bénéficier de la présence de Dieu. Vous savez quoi? La présence de Dieu, c'est bienfaisant. Amen. J'aime la présence de Dieu. on est bien dans la présence de Dieu. On peut déjà sur cette terre goûter, expérimenter la présence de Dieu, mais on les goûtera encore plus lorsque nous serons dans le royaume des cieux. Voyez ? Maintenant, une question. Pour que ceux qui avaient été mordus par les serpents soient sauvés, pour qu'ils échappent à la mort, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Une seule chose. Regardez le serpent d'airain cloué sur sa perche. Imaginez que quelqu'un dit « Ça ne marchera pas cette affaire. J'y crois pas. Je ne regarde pas moi. Faudrait autre chose. Faudrait quelque chose de... » Mais qu'est-ce qui serait passé ? Il serait mort. Hein ? Autrement dit, il fallait avoir la foi. Un regard. Un regard de foi. Un regard suffisait, un seul regard, et les effets du venin étaient neutralisés. Alléluia! Eh bien, c'est cette attitude que nous devons avoir, nous aussi, vis-à-vis de Jésus, pour être sauvés, pour être pardonnés, pour recevoir la vie éternelle. Nous devons mettre notre foi en Jésus-Christ. C'est ce que Jésus a dit tout à l'heure, là nous l'avons lu. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il n'en demande pas plus, alléluia, simplement que tu crois, simplement que tu portes ce regard de foi sur la personne de Jésus. Vous savez, quand on dit qu'il faut regarder à Jésus, ça ne veut pas dire qu'il faut regarder un crucifix. Hein? Non, c'est un regard intérieur, comprenez ? Un regard du cœur, si je puis dire, que nous portons vers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Ça consiste à lui faire simplement confiance. Rien de plus, rien de plus. S'en remettre à lui pour que par les effets de son sacrifice, nos péchés soient échappés, que nous soient effacés, pardon, par les effets de son sacrifice, que nous échappions à la condamnation et que nous soyons sauvés. Alléluia! Et si tu crois, tu reçois. Gloire à Dieu. Une réalité, une certitude que Dieu nous offre. Ne te tourmente pas avec ton passé. Ne te dis pas, bah oui, mais j'ai fait tellement de bêtises. Ah, si vous saviez quel genre de vie j'ai mené. Certes, certes. Mais Jésus a tout pris. Même le pire. Amen. Il a pris le péché de tous les hommes. Même les plus mauvais. Il a péché, il a porté les perversions, les saletés, les plus abjectes qui soient. Là, voilà. Il en a subi la peine au calvaire, sur la croix. Et si tu mets ta foi en lui, tu seras pas à moitié, pas un petit peu, pas partiellement, pas temporairement, pas de temps en temps, mais tu seras totalement et définitivement pardonné. Et s'il te pardonne, il faut que tu apprennes à te pardonner toi-même. Il ne faut pas que tu portes la charge, le poids de ton péché. Ah, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait le reste. Confesse-le lui une bonne fois, une bonne fois. Une bonne fois pour toutes, mets ton fardeau, ton paquet de péché au pied du Seigneur et dis-lui maintenant, Seigneur, je crois simplement et je reçois ta grâce. Alléluia. Il n'y a plus de crainte à avoir, il n'y a plus de condamnation à redouter parce que tout a été accompli par le Fils de Dieu donnant sa vie sur la croix. Amen. C'est simple l'évangile, oui ou non ? C'est compliqué ce que je vous dis là. Si vous n'avez pas compris, vous levez la main, je recommence au début. Mais on a vu des enfants se convertir, je vous assure. Hein. Des gosses tout petits, les larmes de la repentance coulant sur leurs yeux. Ouais, pour dire qu'est-ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas tué, ils n'ont pas volé. Si, peut-être les cerisiers de voisins, mais rien de plus. Hein. Ils n'ont pas fait les 400 coups tout petits, mais voilà, en entendant l'évangile prêché, leur petit cœur était touché, Seigneur, pardonne-moi, sauve-moi. Un enfant peut saisir. Soyez comme des enfants cet après-midi et saisissez la grâce de Dieu manifeste à Jésus. Un regard sur le serpent d'airain coulé sur sa perche. Un regard de foi, d'espérance et de confiance. Et ça suffisait. Voyez. L'instant d'avant, les effets du venin se faisaient sentir. Leur force déclinait, n'est-ce pas? Encore quelques secondes, ils allaient tomber face contre terre. Un regard vers le serpent, et tout à coup, la vie revenait. Alléluia. Tout à coup, l'énergie était renouvelée. Les effets du venin étaient neutralisés, ils étaient guéris, ils étaient sauvés. La même chose peut vous arriver. Amen. La même chose peut vous arriver dans votre âme. Et puis, autre chose pour terminer, Jésus sur la croix. Hein? Non seulement il s'est chargé de nos péchés pour nous les pardonner, mais gloire à Dieu, il s'est chargé aussi d'autre chose. De nos maladies. Amen. Ici, nous prêchons que Jésus guérit les malades. Il s'est chargé de nos souffrances, de nos peines, de nos douleurs, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient morales. C'est écrit, ça aussi, dans ma Bible. Et je pense que vous avez la même Bible que moi. Alors, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53 et au verset 4, voici ce qui est dit. Parlant de Jésus, voyez ? C'est formidable ce texte, il a été écrit 7 siècles et demi environ, avant que Jésus ne vienne au monde. Eh bien le prophète, par l'Esprit de Dieu, a annoncé d'avance les souffrances que Christ allait subir. Et il écrit ceci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il y a tout là. Hein? Il y a un package, vous voyez, complet. Hein? Voilà. Blessé pour nos péchés, ça c'est pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités, nos injustices. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par lui, on est pardonné, on est sauvé, on échappe à la condamnation, ok, par la foi en lui. Et puis, en plus, j'ai envie de dire par-dessus le marché, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a tout porté. Le péché, la maladie. La souffrance, le désespoir. Voilà. Et si tu mets ta foi en lui, eh bien, tu peux recevoir sa grâce. De telle sorte qu'en mettant notre confiance en lui, quant à nos problèmes de santé, répétons-le, santé physique ou morale, vous pouvez être miraculeusement guéri. Amen. Vous pouvez être guéri au travers de la prière et de l'imposition des mains faites aux malades dans la foi au nom de Jésus. Que son nom soit béni. Prions-le, voulez-vous? Nous te rendons